associative. Culture et société. Politique. Et même du sport. Du lundi au jeudi, le pédalo, la quasi quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à bord du Pédalo. Programme ce soir, retour sur les assises du journalisme de Tours. Avec nos collègues de Radio Campus France, nous avions pu poser quelques questions à la désormais députée NUPES, madame Sandrine Rousseau, mais aussi à monsieur Fred Couron. Et oui, le Fred de C'est pas sorcier. Ajustez votre gilet de sauvetage, le Pédalo lève l'ancre sur le Centre FM. Mais avant tout, puisque il est 18h01 et 18h01, c'est l'heure de leur chronique, on accueille Ben d'Infoscope. Salut Ben.
Salut Hugo, salut à toutes et à tous.
Aujourd'hui, tu vas nous parler de la course à la radicalité.
Tout à fait Hugo, cette course à la radicalité de tous côtés profite à ceux qui détiennent les moyens de domination, d'oppression et de répression bien davantage qu'aux lanceurs de coups de gueule contre les organisations historiques du mouvement social, considérées par ceux-ci comme trop timorées, trop modérées. Cette course est renforcée sur les réseaux sociaux, à l'ère de l'information immédiate, prête à penser et prête à digérer. Chacun peut se refaire une virginité gauchiste sur Twitter, Twitch ou TikTok en quelques punchlines. Reconstruire patiemment les armes permettant d'agir réellement sur le rapport de force entre exploiteurs et exploités attire moins la lumière.
Et je suppose que tu as une ref en tête pour nous parler de tout ça.
Effectivement, sans surprise, ça me fait penser à un épisode des Simpsons dans
ça
lequel
commence à devenir
Lisa,
une habitude.
Voilà, dans lequel Lisa, la jeune et brillante élève de la famille, est dépitée de devoir apprendre le créationnisme à l'école en parallèle de la théorie de l'évolution. Durant une réunion municipale, elle demande le retour à une seule théorie enseignée à l'école. Barney, l'alcoolique de service, acquiesce, puis toute la salle l'acclame.
Donc finalement, une seule théorie est enseignée ?
C'est ça, et c'est le créationnisme qui est choisi. Les enfants sont obligés de remettre leurs livres sur l'évolution et ont interdiction d'en parler. Lisa décide alors de fonder un club clandestin d'études de l'œuvre de Charles Darwin. Elle est arrêtée lors de la première réunion par la police pour enseignement d'une science non biblique. Lors de son procès, le lobby créationniste envoie un avocat démago, tandis que Lisa est défendue par une avocate new-yorkaise bien bobo, donc détestée de la population de Springfield.
Oui, puisqu'on y parle toujours des Simpsons, là.
Je parle toujours des Simpsons, effectivement. Et le professeur Fring, à la barre, le scientifique excentrique de la série, défend l'évolution le plus maladroitement du monde en déclarant qu'elle n'est pas incompatible avec l'existence de Dieu, mais qu'elle fait de celui-ci un être moins puissant que le sous-secrétaire d'État à l'agriculture. On vous laisse deviner la puissance qui réside dans ce personnage. Finalement, les singeries d'Homère tentant d'ouvrir une bière le désignent comme le fameux chaînon manquant dans l'évolution de l'homme. Tout rentre dans l'ordre, pardon, mais la réalité est moins comique.
Oui, c'est ça. Revenons-en à la réalité maintenant.
Effectivement, elle nous rattrape. Demain, jeudi 30 juin, sera élu le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale française, poste traditionnellement dévolu à l'opposition parlementaire. Éric Coquerel, candidat NUPES, sera opposé à Jean-Philippe Tanguy, du Rassemblement National. Ça va se jouer à quelques voix, puisque d'ores et déjà, certaines s'élèvent contre le risque qu'une présidence insoumise de cette commission remette en cause le secret habituel de l'identité des plus grands fraudeurs fiscaux. Autrement dit, le Rassemblement National est l'assurance-vie du système capitaliste, là où la nouvelle Union Populaire, taxée d'extrême-gauche par des gens radicalement de droite, ne cherche qu'à défendre les intérêts populaires. Jamais cette élection n'aura été si polarisée et scrutée par les observateurs les plus aguerris. Pour ne pas se retrouver comme à Springfield sous le joug de l'obscurantisme, le temps est venu de faire toute la lumière sur l'état scientifique de nos connaissances, qu'elles concernent l'origine de l'humanité ou la destination fiscalement paradisiaque de l'argent qu'elle a créé.
Merci beaucoup Ben pour cette chronique et à la semaine prochaine peut-être avec ton acolyte Adam qui sera
avec
là.
Adam, oui, tout à fait.
Le Pédalo sur Radio Campus Angers.
On enchaîne tout de suite avec une interview de Madame Sandrine Rousseau, députée de la NUPES, de la NUPS à Paris. Elle est militante féministe, membre de Europe Écologie Les Verts et économiste. Elle revient avec nos camarades de Radio Campus Orléans sur la place des femmes dans les médias et dans la politique.
Radio Campus France est présent aux Assises du journalisme de Tours et nous recevons avec Violette Sandrine Rousseau. Bonjour.
Bonjour.
Vous intervenez, vous êtes économiste, membre d'Europe Écologie Les Verts et candidate aux élections législatives dans la 9e circonscription de Paris. Et vous interveniez dans la conférence « Quel regard des médias sur les femmes en politique ?»
Et justement, à ce sujet, on a beaucoup parlé de la place des femmes et des médias dans la politique. Et la première question qu'on peut se poser, c'est la part que prennent les médias à traiter la question de l'égalité entre les femmes et les hommes en politique. Est-ce qu'ils prennent une certaine part à traiter cette question ?
Ah non, ils prennent quasiment pas de temps ou de pages à écrire sur cette égalité ou cette inégalité des femmes et des hommes en politique. Et ça manque parce qu'en fait, on aurait besoin d'articles et d'un bruit de fond permanent pour imposer l'égalité en politique. Et imposer l'égalité en politique, je rappelle que c'est pas juste faire des quotas ou faire imposer la parole de femmes, c'est aussi changer la manière dont on fait politique et la manière dont on analyse et on perçoit la politique. C'est-à-dire que quand une femme arrive en politique, on a tendance à la renvoyer à une forme d'illégitimité, de ridicule, d'incompétence. Ça, par exemple, c'est de l'analyse. Et cette analyse-là doit absolument changer.
Et pourquoi est-ce qu'il y a ce discours ? Est-ce que ça veut dire que c'est ancré dans nos mœurs de tenir ce discours ?
Je pense qu'on est construit socialement comme ça, que la France est un pays où la politique est particulièrement marquée par les hommes, pour les hommes, faite par les hommes, pour les hommes. J'ai l'habitude de dire cette phrase que je vais redire encore une énième fois, mais la figure politique française typique, c'est le tribun. C'est-à-dire le tribun, c'est celui qui fait des grands discours, qui écarte haut les bras comme ça et qui monte haut la voix, qui va chercher les gens dans le fond de la salle. Et le féminin de tribun, c'est tribune. Et donc c'est la table sur laquelle il s'appuie pour faire son discours. Et ça, on a un sujet autour de trouver les mots qui permettent aux femmes d'être légitimes dans la sphère politique. Tant qu'on n'a pas les mots, on n'a pas l'imaginaire, on n'a pas la capacité à inventer des leaders, des leaderuses politiques qui sont légitimes dans les hautes sphères. Donc là, je crois qu'on a un travail collectif à mener là-dessus.
Et diriez-vous que le fait qu'il y ait peu de femmes dans le milieu du journalisme politique et dans les médias en règle générale, qu'elles sont sous-représentées, ça influence le fait qu'on donne moins la parole aux femmes politiques dans les médias ?
Oui, évidemment, évidemment, et puis surtout, on silencie beaucoup les femmes. Hein. C'est-à-dire que on l'a vu par exemple lors du remaniement ministériel. C'est-à-dire qu'avant le remaniement ministériel, il y avait la ministre du Travail qui était une femme, il y avait la ministre de la Santé qui était une femme, il y avait la ministre de la Justice qui était une femme, et tous ces grands ministères-là, qui sont des ministères régaliens, ont été remplacés par des hommes. Et donc, les femmes se sont retrouvées dans ce remaniement ministériel quasiment absentes. C'est pour ça que pendant toute la crise du Covid, par exemple, il n'y a pas eu de parole de femmes. Donc, c'était Olivier Véran qui parlait, etc. Et là, aujourd'hui, où Emmanuel Macron promet une première ministre, eh bien, on voit qu'il hésite, qu'il n'arrive pas à trouver, qu'il a interrogé plein de femmes. Et tout cela renvoie au fait que c'est comme si c'était impossible. Alors qu'il y a quand même 52% de la population qui est constituée de femmes. Et j'ai tendance à dire, mais je le redis, dit que quand on dit 50-50, nous les femmes on fait déjà un effort. Parce que normalement ça devrait être 52-48. Et que donc il faut au minimum être à 50-50. Et là il n'y a aucune sphère politique dans laquelle les femmes sont à parité.
Et si elles ne sont pas représentées, est-ce qu'elles peuvent quand même arriver à se définir en politique, les femmes ? Est-ce qu'il y a des figures, des personnes qui les aident à se définir en politique ?
Il y a très peu de figures féminines en politique, et celles qui existent sont assez peu connues. Ou alors elles sont de droite, c'est-à-dire qu'il y a Angela Merkel, il y a Margaret Thatcher, mais on voit qu'une Hillary Clinton, par exemple, a eu les pires difficultés à s'imposer. On voit même que Kamala Harris, là, elle a repris un peu de visibilité médiatique parce qu'il y a eu ces décisions sur l'IVG, donc sur l'interruption volontaire de grossesse. Mais en fait, après ça et après l'arrivée de Joe Biden en tant que président des États-Unis, Kamala Harris, elle avait un peu disparu pour nous. Donc en fait, c'est à chaque fois le même processus, c'est-à-dire qu'on met en avant des femmes à des moments clés où on veut aller chercher un électorat féminin, où on veut aller chercher un électorat, et puis ensuite, on les invisibilise. Et là, moi je dis aux jeunes femmes, aux femmes, même plus vieilles, là maintenant, notre truc à nous, c'est de ne pas nous laisser invisibiliser. Et donc, c'est pour ça qu'il nous faut être solidaires et sorores, et c'est pour ça aussi que je dis aux hommes, maintenant, il faut vous déconstruire. Alors, oui, je sais que ce mot fait polémiques, etc. Mais en fait, l'égalité femmes-hommes ne se fera pas tant que les hommes n'auront pas interrogé leurs propres pratiques, y compris journalistiques, mais leurs pratiques aussi quotidiennes.
Comment est-ce qu'on fait pour que ce journalisme politique devienne vraiment une lutte à part entière ?
Bah ça, c'est à vous de répondre à cette question. C'est pas à moi en tant que politique. Moi, je suis de l'autre côté du micro. Donc vous, en fait, vous avez à travailler dans les rédactions. Je pense que...
Donner plus la parole aux femmes ?
Donner plus la parole aux femmes, imposer davantage les femmes, être plus aurore entre vous. Et puis, il y a quelque chose qui m'a vraiment frappée depuis la place où je suis encore une fois de politique, c'est que les hommes politiques ont des acquaintances, ont des affinités avec des journalistes politiques et des journalistes hommes. Ça s'est vu de tout temps, voilà, et il y a vraiment une proximité très forte, intellectuelle, voire amicale avec les journalistes hommes. Les femmes s'interdisent ça, les femmes politiques, les femmes journalistes politiques, pardon, s'interdisent d'être en connivence avec les femmes politiques parce que, en fait, leurs positions dans les rédactions sont tellement fragiles qu'elles ne veulent pas être accusées de connivence, justement, ou de militantisme. Là, moi, je crois qu'il faut assumer ce militantisme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Là, vraiment, l'élection présidentielle a été un backlash terrible pour les femmes. C'est-à-dire que ce soit Pécresse, que ce soit Taubira, que ce soit Hidalgo ou moi avant, on s'est vraiment pris des tombereaux de propos sexistes, d'articles sexistes, etc. Là, maintenant, il faut, quelque part, avoir un réveil et avoir un sursaut. C'est-à-dire que ça, c'est possible parce que, aussi, on laisse dans les rédactions les hommes écrire les articles. Donc maintenant, et quelques femmes qui le sont aussi, d'ailleurs, qui sont sexistes. Donc, à un moment donné, il faut juste se dire que là, on a comme priorité dans les rédactions une égalité de traitement entre les femmes et les hommes.
Et lors de la conférence animée par Pascal Coulisson, vous citiez un exemple qui illustre bien ce que vous dites à l'instant. C'est que pendant votre campagne pour la primaire écologiste en 2021, c'est pendant l'été que vous avez eu vos premières invitations dans les grands médias parce que les rédac-chefs étaient en vacances et que c'était des journalistes qui vous appelaient, des journalistes stagiaires qui vous appelaient pour vous faire intervenir.
Des jeunes journalistes stagiaires femmes qui m'avaient connue par le mouvement MeToo et qui du coup se reconnaissaient en moi et qui voulaient que cette parole puisse être entendue. Je les remercie vraiment du fond du cœur, ces femmes, parce que en fait elles m'ont permis d'émerger de manière très discrète en fait et très sorore et très masquée, et je ne les connais pas, c'est-à-dire qu'en fait elles ne se présentaient même pas à moi dans les rédactions, mais c'est aussi ce type de geste-là qui nous permet d'atteindre une forme d'égalité, même si évidemment quand je dis ça, après je me serais plantée sur les interviews, l'affaire s'arrêtait là, mais au moins c'est elles qui m'ont permis d'accéder pour les premières fois au micro, et donc reconnaissance éternelle.
Est-ce que justement vous diriez que la lutte féministe qui passe aussi par les médias, elle ne doit pas être dépolitisée parce que c'est justement le cœur de cette lutte?
Alors la lutte féministe, elle est comprise comme étant une espèce de réaction un peu personnelle, émotionnelle à une situation, alors qu'en fait la lutte féministe est une lutte politique, et finalement c'est presque, j'ai envie de dire, la lutte la plus ancienne, la plus universelle qui soit, c'est-à-dire que dans tous les pays et puis depuis des siècles et des siècles, eh bien les femmes se battent pour l'égalité des droits, donc en fait c'est la lutte politique par excellence, j'ai envie de dire, et donc c'est pas possible de renvoyer ça à juste une espèce d'hormone, de gestion des hormones ou d'humeur, et là pour le coup les hommes ont leur responsabilité, ça fait partie de la déconstruction dont je parlais tout à l'heure.
Et c'est un petit peu comme le combat écologique que vous portez aussi d'ailleurs, c'est une lutte qu'on ne peut pas dépolitiser, et vous avez fait cette alliance des deux luttes avec l'écoféminisme.
Oui, parce que je pense que ça participe d'une structure sociale en fait, et ça participe d'un rapport à l'autre, donc l'autre humain, femme, ou l'autre non blanc, ou l'autre en tant que animaux qui sont qu'on peut exploiter, qu'on peut enfermer, qu'on peut complètement... Bon, voilà. Et en fait, ce rapport au fait que pour mon plaisir personnel, je peux asservir la totalité de la planète, eh bien, c'est pas possible. C'est-à-dire que là, on arrive à la fin de cela, ça nous envoie dans le mur, ça s'appelle le réchauffement climatique, la perte de biodiversité, et ça met notre vie en danger. Donc en fait, aujourd'hui, ce qu'il nous faut revoir, c'est revoir notre rapport à l'autre, l'altérité, et prôner, mettre au centre de la table la question de l'égalité, la question du respect, la question de la non-destruction. Mais ça, ça nous envoie jusqu'au capitalisme, hein, en fait.
Eh bien, merci Sandrine Rousseau d'avoir accepté de répondre aux questions de Radio Campus France à l'occasion de ces assises du journalisme de Tours.
Merci beaucoup.
Et merci encore à Radio Campus Orléans pour la réalisation de cette interview. À noter que, à l'instant, Sandrine Rousseau et Benjamin Lucas, deux députés d'Europe Écologie Les Vestes, qui avaient décidé de déposer leur candidature de manière autonome pour la vice-présidence, l'élection d'un des six postes à la vice-présidence de l'Assemblée nationale, ont été battus et que le Rassemblement national fait lui son arrivée à la vice-présidence de l'Assemblée nationale avec Sébastien Chenu et Hélène Laporte. Tout de suite, on fait une petite pause musicale sur le 103 FM et on écoute Oumou Sangaré avec son morceau Sarama. C'était Oumou Sangaré sur Radio Campus Angers. Vous êtes toujours à bord du pédalo. Tout de suite, une interview de Monsieur Fred Courant. Eh oui, Fred Courant de C'est pas sorcier. On écoute ça tout de suite. C'était à l'occasion des Assises du journalisme à Tours, il y a à peu près un mois.
Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui aux Assises du journalisme de Tours pour Radio Phoenix et Radio Campus France et aujourd'hui nous recevons Frédéric Courant, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes journaliste et animateur télé et vulgarisateur, surtout scientifique, et on vous connaît sous le nom de Fred de C'est pas sorcier. Alors de quoi est née cette volonté d'éduquer le grand public en fait à la science?
Je pense que c'est sa propre curiosité au départ que l'on a, c'est-à-dire qu'on a envie de comprendre le monde, on a envie de comprendre les choses, et pour ça on va à la rencontre. C'est la chance de faire ce métier de journaliste. On a la possibilité d'aller à la rencontre de gens, de scientifiques, par exemple, qui vont vous aider à comprendre le monde. Et à partir de là, bah, vous avez envie de le partager avec les autres et de le raconter aux autres, tout simplement, je crois. Mais je crois que le point de départ, c'est la curiosité.
Est-ce que vous diriez que les journalistes ont un rôle capital dans la vulgarisation scientifique ?
Pas que scientifique d'ailleurs, mais oui, je pense qu'ils ont un rôle, ils ont un rôle capital. De plus en plus, les scientifiques aussi eux-mêmes savent le faire et ont appris à le faire. Avant, vous savez, on disait souvent qu'il restait un peu les scientifiques dans leur tour d'ivoire. Ils sont descendus depuis un moment. Pas tous, mais enfin, dans la grande majorité, ils sont tous descendus de leur tour d'ivoire. Et ils ont beaucoup de plaisir à partager avec tout le monde. Donc voilà, mais au même titre que les journalistes. Hein, mais de façon générale, un journaliste, il doit davantage être là comme un passeur d'informations entre le public et le monde de la connaissance, plutôt que comme un expert, comme on les présente souvent.
Pour beaucoup, C'est pas sorcier, ça a été quand même à la base, enfin on a grandi avec ça pour beaucoup, en tout cas je parle pour notre génération. Est-ce qu'on peut dire un petit peu que c'est cette émission qui a vraiment démocratisé la vulgarisation scientifique ?
Vous savez, il y en avait d'autres avant, hein, je pense. Il y en a eu d'autres dans d'autres pays. Je me souviens, nous on a pris derrière Jérôme Bonaldi, qui avait une émission sur Canal+, à l'époque, qui s'appelait Dis Jérôme, qui faisait déjà de la vulgarisation scientifique. Il y a Chevalet qui était sur TF1, vous l'avez pas connu, mais qui était, mais non, mais qui rentrait déjà dans les journaux télévisés, qui venait avec des maquettes sur le journal télévisé de TF1 pour expliquer comment fonctionne la navette spatiale. Il y avait des séries qui existaient quand même, mais ouais, peut-être que quand même il s'est passé un truc avec C'est pas sorcier.
Qu'est-ce qui est le plus dur à vulgariser, parce que vous avez quand même traité un certain nombre de sujets en 20 ans d'émission, ouais. Qu'est-ce qui a été le plus dur à vulgariser comme science, parce qu'on prend vraiment le spectre des sciences au sens large?
Bah, tout ce qui est relève davantage du domaine de l'abstraction. Quand vous pouvez fabriquer une maquette pour montrer comment marche un volcan, là ça va, c'est pas trop dur. Quand il s'agit d'expliquer l'intelligence artificielle, ça devient un petit peu plus dur. Quand il s'agit d'expliquer le monde quantique, c'est encore plus dur. Alors vous pouvez toujours prendre l'histoire du chat de Schrödinger qui... et voilà, vous pouvez très bien dire, ben voilà, je peux être à deux endroits en même temps. C'est un petit peu simpliste comme explication quand même. Là, vous allez vous prendre tous les spécialistes qui vont vous tomber dessus. Donc, faut trouver le bon équilibre. Donc, il y a des sujets qui sont beaucoup, beaucoup plus difficiles à expliquer que d'autres. Peut-être parce qu'ils sont plus abstraits, peut-être parce qu'ils se mettent moins en image. Voilà. Mais c'est des vrais paris. Hein, faut pas les abandonner, ces sujets qui sont complexes. Au contraire, c'est même très stimulant d'essayer de trouver comment les vulgariser.
Et justement, comment on choisit un sujet à vulgariser ? Par exemple, pour votre carrière, qu'est-ce qui vous a fait choisir un sujet plus qu'un autre ?
Bah nous, on avait de la chance, c'est qu'on avait quand même de la place. On avait 30 émissions, voire 40 émissions parfois à faire chaque année. Donc on avait toute la place. Donc on se laissait aller au gré des fois de ce que nous demandait le public, qui nous disait « Tiens, pourquoi vous ne faites pas ça, une émission sur ce sujet-là » Très souvent, moi, j'ai rencontré des nouveaux sujets en allant sur le terrain, parce que je rencontrais les scientifiques, et là, ils me disaient « Mais tu connais ça ? Tiens, viens voir ça. » Je revenais à la rédaction en disant « Bah, j'ai découvert un truc sur le terrain incroyable qu'on pourrait raconter et tout. » Les sujets sont inépuisables. Et puis, en plus de ça, la science évolue. Donc, forcément, vous allez avoir régulièrement, et elle évolue très, 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 très vite en ce moment. Donc, il faut les remettre à jour. Il y a des grands classiques, bien sûr. Il y a des grands principes qui restent en place. Mais il y a plein de choses qui évoluent tout le temps. Donc, vous n'avez que l'embarras du choix. C'est ça qui est génial, quand même.
Quand on parle de vulgarisation scientifique, on pense beaucoup, presque tout le temps, à de la science un peu dure, physique, chimie, les espaces. Et pourtant, vous l'évoquiez déjà dans la conférence de presse dans laquelle on vous a croisé, c'était la vulgarisation scientifique ne s'arrête pas à cette science dure. Comment vulgariser les sciences humaines, finalement ? Est-ce que c'est pas le plus compliqué ?
Quand on fait de la télévision, c'est pas forcément le plus facile à mettre en image. Ça se traduit souvent par des discours plus que par des situations. Donc ça, c'est une des difficultés. Mais en réalité, vous pouvez pas les exclure et vous pouvez pas les séparer aujourd'hui. Je veux dire, l'étude des populations, ça va aussi avec l'étude du climat. Je prends un exemple classique, hein, extrêmement classique. Mais donc, vous pouvez très bien étudier le climat et avoir un climatologue qui va avoir beaucoup d'intérêt à discuter avec un démographe ou
Mais c'est la même chose, vous savez, sur les risques naturels ou les choses comme ça, le comportement des individus face aux risques naturels. Pourquoi on se réinstalle tout le temps dans des endroits qui sont dangereux? On a l'impression que c'est dans la nature de l'homme. C'est un mélange de connaissances du terrain, de géologie et de sciences humaines. Et j'adore, moi, les faire se rencontrer sur des plateaux parce qu'en général, à la fin d'une émission, ils se disent « Ah bah tiens, on se connaissait pas, mais on pourrait peut-être bosser ensemble. » Et ça, c'est bien. Et la science, elle devient de plus en plus, je sais pas si c'est le bon mot, mais transversale, comme ça. Et c'est bien, mais dans de nombreux domaines, bah regardez, l'intelligence artificielle pose des problèmes éthiques, des questions éthiques, des problèmes de... Donc, il y a des scientifiques qui font des sciences humaines, il y en a d'autres qui font des sciences dites plus dures, et ils sont amenés naturellement à travailler de plus en plus ensemble.
Cette conférence qu'évoquait Alexandre, c'est ils se sont lancés cette année et vous y avez participé parce que vous avez lancé l'esprit sorcier qui est de la vulgarisation scientifique sur le web. Alors pourquoi avoir quitté, on va dire, la télé pour le web?
Alors c'est pas moi qui ai choisi d'abord de quitter la télé, c'est la télé qui a choisi de me quitter. Mais on n'a pas lancé l'esprit sorcier cette année. L'esprit sorcier, on l'a lancé en 2015-2016.
Ce qui est intéressant, c'est que vous revenez sur la télé cette année.
Oui, parce qu'on aime bien ça et puis parce qu'on aime bien avoir tous les écrans de la télévision, le web, les smartphones, être un peu partout, sur tous les écrans. Alors on est moins dans les cris, mais être sur tous les écrans pour pouvoir diffuser le plus largement possible en fonction, je suppose que vous ne regardez pas forcément les mêmes écrans que moi, peut-être aujourd'hui. Il faut être présent partout. Les plus jeunes regardent la télé chez eux avec leurs parents.
Être présent partout, ça veut dire s'adresser à tout le public tout?
Ah bah, c'est ça le but. Ça c'est quand même le but. Donc en 2016, on crée l'Esprit Sorcier qui est un site et qui est une chaîne YouTube aussi. Et puis on a fait ces derniers temps avec la crise Covid, pas mal, beaucoup d'émissions. On a beaucoup travaillé avec les organismes de recherche, avec des institutions, etc. On a fait beaucoup d'émissions en direct et ça nous a donné envie de retourner aussi vers ça. Mais attention, c'est pas la télé comme on pouvait l'imaginer avant. Bien sûr, vous avez la télé qui est linéaire, qui défile. Vous allez avoir du programme 24 heures sur 24. Mais Netflix, c'est aussi une télé aujourd'hui. Hein. Je prends que cet exemple-là. Mais c'est une télé en VOD. Donc nous, on développe avec Orange, avec Free, une chaîne, SFR, j'espère bientôt, et Bouygues. Pour le moment, on a les deux premiers. Une chaîne qui soit en linéaire, mais qui soit également en VOD. On ne peut pas faire autrement aujourd'hui. Donc vous allez chez vous. Et puis, si on est chez Orange, vous pourrez aussi avoir la chaîne sur votre smartphone et puis aller voir en VOD l'émission que vous voulez. Donc c'est quand même une télévision un petit peu particulière, hein, c'est pas le RTF.
Et en termes de contenu, qu'est-ce qu'on va retrouver sur l'esprit sorcier?
Eh ben, on va retrouver ce qui est intéressant, je trouve, dans la construction d'une chaîne, même par rapport à une chaîne YouTube. Une chaîne YouTube, vous savez, on a l'impression d'avoir tout le temps la même façon d'écrire et de s'adresser au même public parce qu'on a des abonnés qui sont les mêmes. Encore que nous, on est resté une chaîne YouTube un peu généraliste. Enfin, on est resté généraliste. Mais on a vu qu'on avait un certain public. Là, ce qui est bien sur une chaîne comme ça, c'est que vous avez toute la place qu'il faut. Vous pouvez faire des programmes pour la jeunesse, tôt le matin et sur les coups de 17h30. Vous pouvez faire une émission de vulgarisation scientifique vraiment pour tout public, qui soit vraiment super sympa, un super talk show, mais qui soit à 19h par exemple. Vous pouvez faire à 11h du soir une émission un petit peu plus pointue, pour ceux que ça intéresse. Vous pouvez faire des belles soirées thématiques. Il y a un spectre qui est large sur une chaîne comme ça. Et c'est ça qui est intéressant à travailler, quoi.
Quel regard vous portez là sur les dernières années? Vous évoquiez le Covid. On a eu aussi, on a quand même un essor un peu de tout un mouvement complotiste parfois qui a tendance à remettre en question la science. On l'a vu notamment avec Don't Look Up, le film qui a fait beaucoup parler de lui sur Netflix. Quel regard vous portez maintenant sur la société actuellement vis-à-vis de ça?
C'est peut-être un peu pour ça qu'on continue de faire ce travail-là de façon générale de journaliste et qu'on lance aussi ce projet un peu plus large encore de création d'une chaîne scientifique et sur l'environnement. Alors on s'affiche pas clairement en disant on est là, on est des combattants contre les fake news, mais quelque part c'est ça l'idée, c'est de donner la parole à des personnes qui soient légitimes. Attention, je ne dis pas que dans le milieu scientifique on ne rencontre que des personnes légitimes, hein. Ouais, ça peut arriver, c'est comme partout, ça peut déraper parfois, mais il y a quand même une grande majorité. Et puis il ne faut pas oublier un truc qui a surpris tous les Français, parce qu'ils ne s'y attendaient pas. Finalement, ils ont découvert que la façon dont se faisaient les sciences, mais la science par définition c'est une controverse. avant de mettre tout le monde d'accord, il y a d'abord une controverse, et c'est ça aussi qu'il faut qu'on monte, mais une controverse aimable, une controverse quand même où chacun s'écoute, et ça éveille l'esprit critique. Et à partir du moment où, ben voilà, c'est aussi ce qu'on cherche un petit peu à faire, à éveiller l'esprit critique. Donc on ne s'affiche pas directement de front comme ça en disant on va lutter contre les youtubeurs qui font de la fake news. Mais indirectement, on va le faire parce qu'on va donner la parole à des personnes qui sont suffisamment ouvertes d'esprit et qui sont légitimes quand même pour parler de leur sujet, même s'ils ont l'honnêteté. Et ce qu'on va essayer de faire aussi, ce qui est important sur la chaîne et dans ces émissions, c'est de parler de la démarche scientifique. C'est pas seulement le résultat, mais comment on y arrive ? Vous savez, souvent pour raconter comment on en est arrivé là aujourd'hui, il faut refaire un petit passage par l'histoire, comment on a évolué, à quoi on a cru, qu'est-ce qu'on pensait à un moment donné et tout, remettre les choses dans leur contexte. Mais c'est le boulot habituel des journalistes, hein, de remettre les choses dans leur contexte. Donc le contexte justement s'y prête pas mal pour lancer ça actuellement. Et puis bah, ce que je disais tout à l'heure, les sciences, elles sont présentes, c'est une chaîne science et société aussi, elles sont présentes partout dans notre vie, et les sciences, elles sont liées avec des choix de société dans très très grand nombre de domaines actuels. Donc si le public n'est pas un peu sensibilisé et éveillé à des principes scientifiques, à mieux comprendre, moi j'ai toujours pensé que je serais complètement incapable de prendre une décision, j'en sais rien, sur des sujets comme les énergies renouvelables, les déchets nucléaires ou autre chose, si je ne savais pas déjà de quoi on parle au départ. Voilà, il faut déjà savoir de quoi on parle. Et puis on ne peut pas être manichéen, être systématiquement pour ou contre les choses. Les choses sont un peu plus nuancées et compliquées que ça.
D'où l'importance de votre chaîne qui va pouvoir vulgariser toute cette science. En tout cas, merci beaucoup, Frédéric Courant, d'avoir accepté notre invitation de Radio Phoenix et de Radio Campus France.
Merci à vous.
Voilà, une interview donc en direct, mais diffusée évidemment en différé au moment des assises du journalisme de Tours. Encore merci à Fred Courant de nous avoir accordé du temps. Pour finir cette émission, une petite lecture, une belle lecture de l'association Éclat. Je vous laisse pendant 2 minutes de littérature sur les ondes du 103.
Jean-François Bernardini a écrit un livre qui s'appelle Oumani. Il est corse. C'est un auteur, chanteur, contemporain. Apôtre de la non-violence, on va dire. Il est passionné par la Corse et on le dit quelque chose comme le Gandhi de la Corse. Il parle beaucoup de ceux qui ont dû quitter leur île. Alors voilà un des textes qui est dédié, vu l'époque où il a été écrit, c'est un auteur contemporain, à l'homme du Kosovo. J'ai caressé les murs avant de m'en aller. Au dehors, j'entendais qu'il fallait se hâter, et j'ai très bien compris lorsque j'ai vu mon père ramasser en silence une poignée de sa terre. Ma mère serrait mon bras, se taisait en marchant. Moi, je grelottais, j'avais froid en dedans. Les arbres au bord des bois aussi me faisaient peur. Je quittais mon pays comme on vous prend le cœur. Je quittais mon pays comme on vous prend le cœur. À pas démesurés, notre file avançait, et puis tout doucement, les anciens s'arrêtaient, et tout autour de moi, les hommes devenaient fous, comme des rescapés de ces pays de loups, comme des rescapés de ces pays de loups. Et je voyais parfois quelqu'un, le poing levé, et je voulais dormir, mais il fallait marcher, de l'enfer au désert, comme on va, sans raison, privé comme à jamais du toit de sa maison, privé comme à jamais du toit de sa maison. Mon père nous rassurait, nous franchirons la nuit, puis disait doucement, nous reste encore la vie. Dans le creux de ses mains, il serrait tendrement ce petit peu de terre qui nous gardait vivants. Dans le creux de ses mains, il serrait tendrement ce petit peu de terre qui nous garde vivants.
Merci beaucoup à Jocelyne Renoux de l'association Éclat. C'est la fin de ce pédalo. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Nous, on se retrouve demain sur les flots de l'actualité locale. En tout cas, d'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
Une émission
à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.